Alors, bonjour Jacques.
Bonjour Maurice.
Oh, oui. Bonjour
Bonjour.
Bernadette. Je vois Bernadette là. Non, je ne la vois plus, mais bonjour, je sais qu'elle est là. Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour Maurice.
Ça
Ah, Pierre,
va
oui,
bien?
bonjour. Oui.
Et bonjour Luc. Je vois que Luc
Oui,
vient de passer devant la caméra.
moi qui passe.
Et puis, voilà, il ne doit pas être bien loin. Voilà. Parfait. Bon, bah, ça roule, hein? Et...
On se met sur les chaises oranges ou sur le canapé.
Oui, ou comme tu veux, on va.
Ouais.
Comment c'est plus tel le tour sur le canapé? On dort pas quand c'est un peu risqué. Attention, parce que le canapé le matin, c'est ça qu'on peut se lever tôt, ça peut être mortellement. Allez, bah tiens, il y a du canapé sur le mien. J'ai congé ça. Oui. Non, ça avait... non, oh non, moi c'est bon, je peux pas faire une capsule de jambes aussi. Moi, je pensais juste à mettre en chaud, et là, il sera bon pour lui, la nouvelle. Oui, c'est ça. Ah, bah oui, je vais,
Maurice, c'est le 1er mai, c'est le 16h25. Ah, mais vraiment, mais c'est bien dans la liste
de
Ouais. En fait, tu m'as marqué, Nana.
Bonjour Luc.
Genre, tu
Je
bonjour,
pense
mais tu l'as vu.
que tu as lu,
Oui,
c'est vraiment.
mais en fait, quand tu l'ouvres, ça
Ça
me
fait
dit.
28, oui, c'est un accusé de réception. Et donc, enfin, il plus ça.
C'est temps, regarde, je suis venu à ceux de ici, à ceux
Ah bon?
de
Oui, ça arrive. Hein. Alors, le mail adressé aux députés. Et je viens de le recevoir. Ah non, ce matin, mais c'est
non,
parce que tu
c'était
l'as
parce que j'ai
récupéré.
envoyé j'étais
Oui,
avec
tout
vous sur
à
le
fait. Et alors, c'est
16h25, j'ai protesté des heures.
amendement PLFSS. Amendement
Ça s'appelle
PLFSS.
franchement un salaire. C'est pas le même.
Oui, alors c'est avant le dette ou après le dette?
Ah non.
Ah,
Soleil.
voilà. Ah,
Voilà.
voilà. Mmh,
Voilà,
très
c'est
bien. Voilà.
celui-ci.
Ouais, mais Nicolas, il m'a fait
Là,
travailler
je
hier,
pense
tu
que
pourrais
c'est lui
imaginer.
qui ça.
J'ai pas eu mis.
Non, mais c'est pas grave. Mais
Non,
j'en ai profité. Tu vois, j'avais
non,
pas
c'est
très
bien.
très faim.
Non, mais t'as
J'avais le
raison.
retard. J'ai tout.
Et puis, j'ai eu de travailler pour le dette. On s'est préparé le
Je
truc.
parle pas.
Oui, non,
Je
mais
profite
d'accord,
sur
mais
le
t'as un peu compris les trucs, c'est déjà bien. Et du coup, Luc, tu m'entends?
ah, ça y
Ben,
est.
il faudrait, quand est-ce que je peux t'appeler ce soir ou demain? Qu'est-ce qui t'arrange le mieux?
Le déjeuner des hospices. Demain soir, parce que c'est vraiment chaud bouillant pour moi.
Demain soir?
Ça te va
Non.
demain soir?
Pardon?
Tu ne m'entends pas?
Non, le son est un peu haché, oui. Ben, je vais t'appeler, ne bouge pas. Je t'appelle sur le portable.
Ouais.
On peut vous installer comme ça et nous.
Vous êtes là, oui.
Ok. Vous êtes comme sur le canapé, je crois, et nous sommes en l'air.
Oui. Ah, ça fait longtemps.
Ah, oui. C'est vrai, pas de temps, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu
Oui. Non, mais Sonia,
Ouais. Je vais écrire dans la galerie, on va se connecter, ça va bien se passer. Moi, je n'ai pas non plus reçu, je vais utiliser la Laurence après. Sur les soins de co-responsables, et j'ai reçu aucun. J'ai mis une inscription. Avec un mail de réception d'inscription. Et on devait recevoir les mails mensuels. J'ai demandé au sujet.
Mais on aimerait bien rencontrer pour parler de ça.
Il y a des livres, et voilà, c'est pas grave. Je vais mettre un secret. Là, il sera sur place, c'est le faire. Hein?
Je reste
mais le mec là, où il est là, je vais passer dans la journée, mais il va me dire, on va faire ce qu'il y a, on a le temps, 3 minutes.
Mais Raïla, c'est la première.
Oui,
la caméra est là.
Je sers ce sujet.
Bon, ben, nickel,
normal.
Bon, c'est bien à mettre vos téléphones sur peut-être un jour.
Si
Sur le train, si vous voulez être plutôt
écouté. Son.
Le train. Ouais.
Oh, je ne sais pas
Ouais,
de
il y a le Madrid
il y a
aussi.
juste la personne que je suis.
Bon. Alors, donc, on a. Voilà. Alors, il y a lui qui parle, on l'entend pas. Pardon? Non, ça passe plus, lui. Non, on n'entend pas. Ça marchait tout à l'heure, suffisamment de matière.
Tu
connais l'histoire du cerveau fossilus? Non. Non.
Alors, bonjour à tous. On va commencer cette conférence, vous le savez, avec l'habitude de ces 5 minutes un peu parisiennes qui permettent d'attendre que, en effet, les derniers puissent se connecter. On va ce matin passer 1 heure ensemble avec un certain nombre d'intervenants qui vont pouvoir vous parler de cette commission qui a duré 1 an, qui s'appelle la commission Terra, qui a été initiée par l'UC2M avec le soutien de Renomed. On va pouvoir aborder en effet toute cette réflexion qui a été faite sur les maladies rénales chroniques. Je vous demande donc de bien garder vos micros fermés pendant toute la période de la conférence. On se posera toutes les questions en fin de conférence. On aura tout un espace questions pour pouvoir répondre. Cette conférence est enregistrée de façon à ce qu'on puisse vous l'envoyer ensuite si vous en avez besoin et que vous avez quelques éléments qui vous ont échappé. Et bien évidemment, l'ensemble des intervenants qui sont présents sont aussi, à l'issue de cette conférence, à votre disposition dans la limite de leur agenda pour pouvoir répondre à toutes vos questions ou pouvoir réaliser des interviews. Je vous propose qu'on commence dans, allez, on va se dire, on se donne 5 minutes et ensuite on démarre. Merci à tous.
C'est qu'il change le numéro du lieu final. La nourrice.
Ah, bon, le numéro de Luc. Parce qu'il y a envie, on l'entend. Ah, non, le numéro de Luc. Bonjour, Bénédicte.
Bonjour Maurice, bonjour à tous.
Alors, le numéro de Luc, je vais te donner un coup de sucre. Qui en a besoin? Charlotte, pour être d'accord, tu ne comprends pas.
Yes.
Il
Voilà.
y a lui,
Non,
pour la caméra.
passe.
C'est
C'est le numéro de. Et
Oui, ça se non, mais il y a le nom des personnes. Oui, vous avez connu. Voilà. C'est la liste. Ça vous embête, je lance la laisse. Non, mais je vais la prendre si ça ne vous dérange pas, parce que je me jette les appareils. On ne sait jamais. Si je tombe en rade, vraiment, il y a l'espace. Et c'est petit, c'est bon, je vais essayer de réussir. C'est comme je l'ai dit, c'est une défense. C'est bon, parce que tu as utilisé, si c'est mal fait, c'est bon. C'est vraiment bien. Mais en fait, je me suis là. Super, c'est bon. Je vais prendre le message. Je vais prendre le message. C'est bon, oui. Okay.
Bonjour Emma.
Bonjour.
On n'entend pas très bien. Alors, je pense qu'en fait, vous avez.
Tu comprends que le son,
le son n'est pas
Non, parce qu'en fait,
c'est la barre son qui passe en Bluetooth, c'est ça? Ouais.
D'accord.
D'accord.
Je t'envoie des messages à la parole, on entend des paroles.
Et c'est une
Oui. Oui. J'ai fait la cuisine. J'ai fait la cuisine. Je trouve presque français, c'est le contraire. Bon, je Allez, super. C'est bon, je crois.
Allez-y.
Si vous avez pas entendu, vous avez entendu, Nicolas?
C'est vrai.
Mais il n'y a pas de J'ai l'impression que merci. C'est mes propositions. Alors, ça, je suis en train
de Ouais. Charlotte?
Ouais, ça fait l'expérience. On va
Oh, on attend juste 2 minutes. Mais quand même.
Par chance, Est-ce que le professeur Slimane nous entendait? Ah oui. Voilà. Et vous entendez?
Vous m'entendez?
Ah, voilà. On a retrouvé le professeur Luc Frimat. Alors, on en profite pour démarrer cette conférence. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ce que je vous propose, donc, on va passer 1 heure ensemble. Pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé pendant 1 an de travail avec cette commission terrain initiée par le think tank UC2M et soutenue par Renomed. On va passer 1 heure pour comprendre ce qui s'est passé dans l'ensemble de ces travaux, de ces séances, de ces sessions et autour de la maladie rénale chronique, de ce qui va apparaître, des recommandations qui en ont émergé et évidemment aussi sur cette réflexion du plan maladie rénale qui paraît maintenant nécessaire en tout cas à essayer de mettre en place et à pousser vers une mise en place assez rapide. Je vous demande donc bien évidemment comme d'habitude de garder vos micros fermés. Cette conférence est donc enregistrée. L'ensemble des questions que vous avez à poser pourront être posées en fin de séance. Compte tenu qu'on a des intervenants qui sont à distance et des intervenants qui sont sur place, je vous demande de bien faire attention à ne pas vous chevaucher pendant la prise de parole de façon à ce qu'elle soit claire pour tout le monde. Et puis, on aura un certain nombre de documents qu'on vous enverra ensuite, bien évidemment aussi le recueil de l'ensemble de ces recommandations et de cette réflexion qui a été réalisée et qui vous sera envoyée dans la foulée de cette conférence de presse. Je vous souhaite donc à tous une très bonne conférence de presse et je laisse En tout premier, la parole à Victoire Morel, qui est la directrice de l'UC2M et qui va nous réexpliquer un petit peu comment tout a démarré.
Oui, bonjour à tous et merci d'être donc présents avec nous ce matin pour la présentation des travaux et des recommandations de notre commission terrain, donc constituée au sein du think tank de l'UC2M, l'Université du Changement en Médecine. Donc, pour rappel, depuis 2018, l'Université du Changement en Médecine réunit une centaine d'experts et professionnels du secteur de la santé, donc à la fois des médecins, infirmiers, directeurs d'établissements, représentants de patients, avec l'objectif de réfléchir ensemble à l'organisation et aux transformations du système de santé, mais également d'accompagner et aussi d'encourager, quand il le faut, ces transformations. Fin 2022, nous avons été interpellés par la Fédération Rhénomed sur la situation assez préoccupante de l'organisation, de la prise en charge de la maladie rénale chronique en France et la situation des patients, donc des personnes atteintes par cette maladie. Donc, c'était au sortir notamment du Covid, de la crise du Covid. Et nous avons donc décidé d'organiser une conférence de concertation pour réunir à la fois les communautés professionnelles, mais aussi les pouvoirs publics et les représentants de patients pour donc échanger et essayer de trouver des solutions ensemble à cette situation. Bien évidemment, une matinée d'échange n'a pas suffi et une grande partie des participants à cette conférence de concertation ont exprimé le désir de continuer à travailler sur cette thématique, sur ces problématiques, voilà, de fournir un travail de plus long terme et surtout plus en profondeur pour faire émerger donc des propositions, des recommandations en direction des pouvoirs publics. Je tiens à le préciser, cette conférence de concertation, elle a mis en évidence plusieurs choses, mais notamment une, c'est que déjà la maladie rénale chronique reste encore trop peu connue à la fois des citoyens, mais aussi des pouvoirs publics, des médias et aussi d'une partie des professionnels de santé encore. Et pourtant, c'est une maladie qui touche des millions de personnes en France et qui représente une lourde charge pour le système de santé. Donc, cette conférence de concertation a mis en lumière la nécessité de faire évoluer les organisations, mais aussi les financements qui sont actuellement en place pour améliorer la qualité de la prise en charge, mais aussi répondre aux problématiques de prévention, aux questions de proximité. On va revenir dessus pendant cette matinée aujourd'hui. Et donc, nous avons décidé d'organiser, donc de constituer une commission, un groupe de travail de long terme pendant une année, donc le groupe terrain au sein de l'UC2M. Ce groupe s'est réuni à l'occasion de plusieurs réunions de travail, s'est aussi réuni à l'occasion d'auditions pour voilà, avoir aussi l'avis d'autres experts qui n'étaient pas intégrés sur le long terme dans notre groupe. Et c'est donc de cette année de travail-là qui s'est produit en 2024 que ressort cette note de proposition et de recommandation qui va vous être envoyée, que vous avez à disposition dans notre salle ce matin. Je tiens à remercier, alors c'est un peu long parce qu'il y en a beaucoup, mais l'ensemble des experts et des personnes qui donc, font partie du groupe terrain, donc Aziza Berkane, Jean-Claude Alguidje, Jacques Battistoni, Anne-Valérie Boulet, Antoine Braconnier, Roland Cash, Jean-Marc Charel, Christian Combe, Patrice Détex, Luc Frimat, Tatiana Henriot, Fabrice Huret, Vincent Lacombe, Maurice Laville, Pierre Maréchal, Raymond Merle, Jean-Paul Ortiz, Bénédicte Stingel, Jean-François Thébault, Cécile Van de Vivert et François Vrotovnik. Et puis, je remercie également les experts qui ont été auditionnés. Donc notamment François Blanchecotte, Alain Sommer, Justine Baqueta et le professeur également Vincent Viblet qui nous ont aussi consacré un peu de leur temps à travers des auditions. Et puis je remercie Charlotte Deck et Emma Bassaon qui ont travaillé ensuite à la rédaction, à la mise en forme et voilà, multiples allers-retours sur ce travail de recommandation. Donc merci à elle pour ce gros travail qui a été mené. Et voilà, je passe la parole aux intervenants pour rentrer dans le vif du sujet et vous présenter
Et donc c'est le professeur Maurice Laville, qui est le président de Rhénomed, qui entamera cette présentation.
Merci. Je remercie à nouveau tous les intervenants et je salue les personnalités présentes. Très rapidement, quelques points. Premièrement, Rhénomed, c'est une fédération d'associations, donc d'établissements privés à but non lucratif, qui représente actuellement 26 établissements, qui anime 380 sites de dialyse sur le territoire national, qui traite 17 000 patients et qui travaille avec l'aide de 7 200 professionnels. Voilà, juste pour situer l'importance de notre action qui représente le secteur associatif, 42% environ de l'ensemble des séances de dialyse réalisées sur le territoire dans une année. La situation de la maladie rénale chronique, Fabrien, après tenait du rapport Rhin 2022, donc c'est un outil absolument remarquable qui est géré par l'Agence de biomédecine et la France a, de ce point de vue-là, un des meilleurs registres sur la dialyse et la greffe. Ces données du rapport Rhin nous montrent qu'en 2022, en décembre 2022, il y avait 52 000 patients dialysés, 41 500 patients porteurs d'un greffon fonctionnel. Il arrive chaque année 11 000 nouveaux patients en traitement de suppléance. La mortalité des patients en dialyse est de 16% dans l'année. Si on regarde la greffe, mais le sujet de la greffe a été adressé par le plan greffe, on a actuellement 15 000 patients inscrits en liste d'attente pour 3 400 greffes dans l'année 2022 et seulement 434 greffes préemptives, c'est-à-dire des patients qui sont greffés avant de passer par le stade de la dialyse. Le donneur vivant, les greffes à partir de donneur vivant ne représentent que 15% de l'ensemble des greffes, donc c'est finalement assez peu par rapport à d'autres pays européens. Ce tableau sur les patients en insuffisance rénale avancée faisant l'objet d'un traitement de suppléance n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on estime, d'après les données épidémiologiques, qu'il y a en France entre 3 et 5 millions de patients porteurs d'une maladie rénale chronique, 1,6 million qui sont en stade 3 à 5, c'est-à-dire les patients qui ont une insuffisance rénale avérée entre le début de l'insuffisance rénale, le stade 3, et l'arrivée au stade de pré-suppléance, le stade 5, 1,6 million. Il faut noter que la prévalence de la maladie rénale chronique est de 1,2% sur l'ensemble de la population, mais 4,5% après 60 ans. Or, comme vous le savez, nous avons une population vieillissante et donc ça contribue à l'augmentation régulière du nombre de patients qui arrivent à l'insuffisance rénale avancée, même si au cours des années récentes, on a observé une certaine horizontalisation de la courbe de croissance des patients prévalents. Les problèmes actuels posés par la maladie rénale chronique, c'est évidemment le dépistage dans les populations à risque, le parcours patient, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'un patient chez qui on découvre une maladie rénale chronique, est-ce qu'il a un parcours de soins qui est tracé, cohérent, coordonné? La réponse est non. Et c'est une des grosses lacunes actuelles, même si a été mis en place à l'initiative d'Agnès Buzyn en décembre 2019, le forfait parcours, qui ne concerne que les patients à un stade déjà avancé de la maladie rénale, puisque c'est les stades 4 et 5, qui a permis de faire des progrès importants sur la gestion de la transition vers le traitement de suppléance, en informant mieux les patients, en les préparant mieux. Et de ce fait, je parle ici pour la région Rhône-Alpes parce que j'ai les statistiques dans la tête, le pourcentage de patients qui arrivaient en dialyse en urgence est passé de 35 à 26%, ce qui représente un gain tout à fait significatif. Tout cela, c'est-à-dire la maladie rénale chronique et en particulier donc ce qui est consacré au traitement de suppléance, représente une lourde charge pour le système de santé et les dépenses en 2017, telles que figurant sur le rapport de la Cour des comptes, s'établissaient à 4,2 milliards d'euros. Donc, beaucoup de patients porteurs d'une maladie rénale, en résumé, un nombre quand même très significatif de patients en traitement de suppléance, greffe et dialyse, avec des risques qui sont très importants, un parcours qui a été mis en place sur les stades avancés mais qui demande à être complété sur les stades précoces et aujourd'hui pas de politique, disons, systématique de dépistage chez les patients à risque en dehors de ce qui est conseillé chez les patients diabétiques, notamment avec la recherche d'albumine annuelle, mais qui n'est pas réalisée dans la majorité des cas, bien malheureusement. Merci.
Merci beaucoup, professeur Maurice Saville. On va maintenant pouvoir donner la parole à Aziza Berkan, qui va nous parler de l'état des lieux des attentes des patients atteints de maladies rénales chroniques. Aziz, on t'écoute.
Oh, c'est gentil, merci. Merci beaucoup déjà de m'accueillir pour cette conférence de presse. Les attentes des patients, je vais essayer de l'aborder à travers trois points. Le premier point, c'est l'offre de soins, la disponibilité. Qu'est-ce qui est disponible pour les patients qui arrivent en traitement de suppléance, voire même un peu avant. Le deuxième point, ce sera l'inclusion sociale. À un moment donné, on est des patients, mais pas que des patients, on est aussi des êtres humains. Et le dernier point, ce sera sur l'innovation. Alors, l'innovation, forcément, je me projette peut-être un peu loin, mais j'en parlerai quand même. Concernant l'offre de soins, il est clair pour tout le monde, et je pense que c'est facile à comprendre, que quel que soit son âge, notre demande, c'est que l'offre de soins puisse s'adapter au parcours de vie du patient. Autrement dit, vous comprenez bien qu'un enfant, qu'un nourrisson ou un enfant qui a besoin d'un traitement de suppléance n'a pas le même parcours que quelqu'un adolescent, qu'un adulte, voire qu'une personne âgée. Et forcément, si un patient suit ce parcours-là, c'est-à-dire qu'il est malade jeune, comme ça a été mon cas, et qui vieillit en dialyse, entre guillemets, ma demande à 20 ans n'est pas la même qu'à 60 ou 70 ans. C'est pour ça que ce que nous, on souhaite, nous les patients, c'est qu'on puisse proposer à l'ensemble des patients de France, au moins, c'est les différentes techniques disponibles. Alors, on parle de dialyse péritonéale, on parle des hémodialyses, on parle même ces derniers temps de traitement conservateur pour ceux qui ont un certain âge et qui ne souhaitent pas dialyser. Un traitement conservateur, il y a un guide qui est sorti, qui a été publié par la SFNDT l'année dernière. Je vous invite à le regarder. Donc, pour revenir sur l'offre, voilà, ce qu'on souhaite, c'est que des patients qui arrivent à des stades, alors Maurice a parlé du stade 4-5, un stade avancé, mais un stade un petit peu en amont, ce qui serait bien, c'est de pouvoir proposer aux patients toutes les techniques disponibles pour que le patient, voire avec ses proches, en tenant compte de son environnement, puisse choisir la technique la plus adaptée à sa vie. Voilà. Et forcément, cette technique pourra évoluer, pourra choisir d'autres techniques en fonction de l'évolution. Bien sûr, je n'ai pas abordé la greffe, mais évidemment, la greffe étant le meilleur des traitements, mais comme tout à l'heure ça a été mentionné, ce n'est pas la majorité. Je ne sais plus combien de greffes rénales, autour de 3 000.
3 500 au moins.
Voilà, 3 500 par an. Il y a 16 000 personnes qui attendent. Bon, il y a un déficit. Voilà. Le deuxième point, c'était concernant l'inclusion sociale. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était des êtres humains. En fait, la réalité, c'est qu'on est des citoyens. Et ce qu'on souhaite, nous les patients, c'est aussi jouer notre rôle dans la société. Alors, jouer notre rôle, c'est déjà pouvoir travailler. Vous comprenez bien que quand vous êtes en dialyse 3 fois par semaine, on va dire des séries du lundi, mercredi, vendredi, le matin ou l'après-midi, c'est difficile d'associer ça avec un boulot, sauf si vous faites du télétravail et vous avez l'opportunité, dans un centre de dialyse, de bénéficier d'un Wi-Fi qui vous permet de travailler. Mais ça, c'est juste un exemple. Quand on est dialysé, il faut pratiquement faire une croix sur son plan de carrière. Pourquoi? Parce que il y a des soins, il y a non seulement la dialyse, mais tout ce qui est associé à la dialyse. Voilà, concernant l'inclusion sociale. Alors, ce qu'on demande, nous, les patients, c'est la prise en charge, bien évidemment, et c'est bien fait actuellement concernant les soins médicaux. On nous prend en charge, on choisit la technique de dialyse, on est bien pris en charge. Ce qui serait souhaitable aussi, c'est que un peu avant la prise en charge en dialyse ou en cas de la greffe, d'associer une assistante sociale, d'associer une diététicienne, d'associer des personnes ou des soignants qui nous permettent justement de passer ce cap de la douleur, de l'isolement, de le lier à cette maladie. Quand vous dialysez, vous êtes un peu seul, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, mais on vous accompagne dans les soins, on demande un petit peu plus. Alors, c'est pas excessif, mais ça permettrait justement, parce qu'il faut voir le côté positif, un patient qui est acteur de ses soins, c'est un patient qui, lui, va être acteur dans la société, va pouvoir retourner au travail, va pouvoir contribuer à l'effort national. Donc voilà, donc quelque part, et en même temps, on est, quand on est, entre guillemets, acteur de ses soins, j'estime être acteur de mes soins, c'est extrêmement motivant. Et une estime de soi qui est... Ce facteur n'est pas à négliger. Un patient qui a pu choisir sa technique, qui a pu être accompagné d'un point de vue social, quelque part, il a aussi
Il est entre acteur, il est moteur, il participe à la société. Donc, vous avez compris à peu près le principe. Le dernier point sur lequel je veux aborder, c'est la partie innovation. L'innovation, alors, j'ai été surpris par un rapport de la Cour des comptes en 2020, justement, en février 2020, qui parlait de 30% de gens démarrent la dialyse en urgence. Et quand on regarde sur ces 30%, la majorité des patients, c'est des gens qui sont connus par le monde médical, c'est-à-dire diabétiques ou hypertendus. Et là, je me suis dit, en tant que patient, vu ce que c'est que la souffrance de la dialyse, quand je dis souffrance, bon, je regarde bien comme ça, mais c'est quand même très contraignant, très pénible. Comment on fait pour laisser des gens arriver en dialyse en urgence? C'est inconcevable pour un patient qui dialyse. Et donc, quelque part, avec notamment Maurice et d'autres, on a réfléchi à comment favoriser la détection de ces patients. Alors, il y a des projets qui sont en route, hein, je ne voudrais pas m'étaler, mais l'innovation, c'est ça, c'est à partir des données existantes, que ce soit des données de la Caisse primaire, la Caisse nationale d'assurance maladie, que ce soit peut-être différentes modalités, comment on laisse passer, il y a des gens, on va dire le mot exact, c'est il y a des trous dans la raquette. Et quelque part, moi, en tant que patient, alors c'est pour ça que je bafouille un petit peu parce que ça m'agace, pour être honnête. Et donc voilà, donc l'innovation pour moi, ça veut dire essayer d'exploiter toutes ces données disponibles pour éviter que des patients arrivent en dialyse. Un patient qui est pris en charge tôt, c'est un patient qui va éventuellement retarder l'arrivée en dialyse ou l'arrivée en greffe, et c'est un patient, excusez-moi du terme, qui va coûter moins cher à la société. C'est quelque chose d'extrêmement important. L'autre innovation que je vois, c'est utiliser l'intelligence artificielle. On parle de beaucoup de bases de données, mais peut-être que c'est compliqué de travailler sur des bases de données. J'ai espoir, même si je ne maîtrise pas complètement l'outil intelligence artificielle, que cet outil puisse nous servir un jour à faire des extractions pour communiquer avec les patients qui, eux, sont à risque. Voilà, je pourrais répondre à vos questions. J'ai encore des choses à dire, mais la conférence de presse étant un peu courte. Merci de m'avoir écouté, en tout cas.
Merci beaucoup, Aziz, pour cette intervention. Maintenant, on va donner la parole au professeur Luc Frima pour pouvoir aborder l'état des lieux de la maladie rénale chronique pour les professionnels de santé, vu par les professionnels de santé.
Merci beaucoup. Vous m'entendez?
Très bien.
Merci beaucoup. Donc, moi, je suis néphrologue de terrain, hein, sans jouer sur les mots du projet. Hein, et donc, je vais vous rapporter mon expérience. Comme ça a été souligné par Maurice Laville il y a quelques instants, les néphrologues sont littéralement en train d'inventer le parcours MRC, de travailler à une coordination du parcours. Cela signifie que au lieu d'avoir une consultation de temps en temps, comme avec un cardiologue, comme avec un diabétologue, il nous paraît nécessaire d'avoir un véritable balisage, une structuration des étapes de l'évolution de la MRC. Ça a été dit il y a quelques instants par Monsieur Aberkane, la MRC, c'est une maladie très grave qui engendre des souffrances très significatives. On peut dire ici une réduction d'espérance de vie en moyenne de 10 à 15 ans, une réduction aussi de l'espérance de vie en bonne santé. Être dialysé, c'est très lourd, ça a été dit il y a quelques instants. Alors, le parcours MRC, c'est mettre tout en œuvre pour améliorer la survie et l'espérance de vie. Et ce qui est comme message fort aujourd'hui, on doit souligner qu'on ne se focalise plus sur la dialyse. Hein, au contraire, toute la profession veut vraiment éviter la dialyse. Il faut que quand elle est nécessaire, il faut que la dialyse reste d'excellente qualité, qu'elle puisse être proposée avec une offre de soins diversifiée, comme l'a dit il y a quelques instants Aziz Aberkane, mais le parcours MRC, ça n'est plus que la dialyse. Alors, par exemple, ça a été dit aussi, il existe une nouvelle option thérapeutique, le traitement conservateur, c'est-à-dire des traitements et des aides à domicile complètes, globales, mais sans la dialyse. Et cette solution, elle apparaît très souvent idéale pour des personnes de plus de 75 ans, a fortiori de plus de 80 ans. Et nous avons, il y a eu, l'assurance maladie a financé une expérimentation article 51 par nos collègues lillois, et qui a montré qu'une structuration, une organisation du traitement conservateur pouvait vraiment apporter des soins très efficaces avec une excellente qualité de vie et c'est pas anodin, faire vraiment diminuer très fortement les coûts de prise en charge de ces patients. Donc, traitement conservateur, nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment une entrée dans le droit commun et un financement. On n'oublie pas la greffe, ça a été dit il y a quelques instants, mais dans le cadre du parcours, il faut qu'il y ait un renforcement des incitations financières, en particulier des coordinations pré-greffe, avant la greffe, pour l'accès à la liste d'attente. Dans les structures où il n'y a pas la transplantation, c'est important qu'il y ait des moyens pour permettre aux patients dialysés d'accéder très rapidement à la liste d'attente et préférentiellement dans la filière de greffe donneur vivant. Donc c'est très important. Alors le parcours MRC, aujourd'hui on le voit du début jusqu'à la fin. Je viens de parler des étapes plutôt de la fin de l'évolution. Mais ce qui est très important de souligner, c'est que aujourd'hui, on a une vraie visibilité sur les stades précoces. Et là, on ne doit pas oublier que le médecin généraliste a une place centrale en partenariat avec le néphrologue. Il faut que la réalité de la maladie rénale chronique soit reconnue. On a des mesures, des traitements qui sont vraiment extrêmement efficaces aujourd'hui pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique, pour vraiment protéger les reins et éviter toutes ces complications. Donc il faut des plans d'action clinique. Nous avons eu un petit peu la déception de voir que dans le bilan de prévention, vous savez, qui vient d'être mis en place là, depuis quelques mois, il n'y a pas de visibilité de la maladie rénale chronique. Or, c'est plusieurs millions de patients qui sont concernés. Et donc, nous demandons que sur ce bilan de prévention 40-45 ans et celui sur 60-65 ans, il y ait une vraie reconnaissance de cette maladie rénale chronique pour agir tôt en prévention, mettre en œuvre pas que des médicaments, mettre en œuvre aussi des actions telles que l'activité physique adaptée et l'APA, qui est vraiment une solution aussi authentique pour protéger les reins. Voilà, donc toute une panoplie d'actions qui doivent s'inscrire dans un véritable parcours en étroite coordination avec les médecins généralistes et les équipes de soins primaires. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Luc Frima. Et on va pouvoir maintenant donner la parole au docteur Jacques Battistoni pour nous parler de la prévention de la maladie rénale chronique.
Bonjour, oui, merci de me donner la parole et me permettre d'exprimer un petit peu la place des médecins généralistes et plus généralement des soins primaires dans la prise en charge de la maladie rénale chronique. Alors peut-être juste pour introduire, autrefois quand j'étais étudiant en médecine, je suis passé en stage en néphrologie, on parlait d'insuffisance rénale chronique. Aujourd'hui, on parle de maladie rénale chronique, ce qui montre bien qu'on y a un continuum entre des stades précoces, entre des stades où la plupart des gens d'ailleurs ignorent qu'ils sont rentrés dans un début de maladie rénale chronique, et puis ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire le stade de suppléance. Et notre objectif à nous, médecins généralistes, c'est surtout et avant tout, parce que ça concerne beaucoup de nos patients, leur éviter d'aller d'évoluer vers des stades avancés de la maladie rénale chronique, du stade 3B, 4, voire 5 stades de suppléance. Donc comment faire pour cela? Notre cible principale, ça va être la question de comment on prend en charge les patients à risque. Et les patients à risque, malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux, et donc c'est une des raisons aussi d'agir aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, on va avoir, avec les maladies chroniques qui augmentent, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, simplement l'obésité, on a un risque de voir une population à risque de maladies rénales chroniques et à risque d'insuffisance rénale au stade de la suppléance augmenter de plus en plus. Donc, plutôt que de parler de dépistage, en fait, je crois qu'il faut mieux parler de prévention par rapport à des patients qui sont suivis en soins primaires, qui sont des patients qui ont une hypertension, comme je le disais, qui ont un diabète, qui ont un surpoids, qui sont sédentaires souvent aussi, qui ont une alimentation qui n'est pas équilibrée. Et ces patients-là doivent bénéficier d'un suivi régulier et dans ce suivi régulier, d'une prise en charge incluant un bilan annuel et la mesure du risque d'évolution vers une maladie grave. Et donc ça, c'est connu. On a des recommandations de l'année dernière de l'HAS qui disent très clairement qu'il faut faire annuellement chez tous ces patients à risque un rapport albuminurique sur créatinurie et que couplé au dosage de la clairance, ça permet de voir dans quelle mesure ce patient il est susceptible d'évoluer rapidement vers une maladie qui va nécessiter un lien avec le néphrologue et une prise en charge plus adaptée. Donc notre but, c'est de jouer notre rôle. Essayer de travailler en bonne intelligence et en parfaite intelligence avec les néphrologues, avec ce second recours dont nous avons besoin pour tous les patients, soit qui présentent une pathologie préexistante qui doit attirer notre attention, soit qui présentent un risque et qu'on voit bien qu'ils évoluent rapidement. Notre prise en charge à nous, elle se fait forcément en équipe. Pour être plus efficace, si on prend en charge la population de notre territoire, notre patientèle, on a évidemment besoin d'être entouré d'une équipe qui va nous aider à vérifier, à repérer que les patients y bénéficient bien de ces actions, de ce bilan annuel qui leur permet de voir. Le bilan de prévention dont parlait Luc Frima à l'instant, il s'inscrit là-dedans parce qu'en fait, il a pour objectif aussi de rappeler aux patients l'importance parmi tous ces facteurs de risque, de repérer celui de développer une maladie rénale chronique. Et ça se fait bien à partir du moment où effectivement, on travaille en équipe et on est aussi en lien avec une équipe de soins spécialisés en néphrologie. Un petit point quand même, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent brutalement en dialyse? Probablement parce que ce sont des gens qui échappent aux soins. Et ça doit être pour nous un sujet de préoccupation et d'attention particulière. On a parlé depuis le Covid très régulièrement d'aller vers des populations défavorisées. On sait bien que les maladies chroniques, elles touchent en préférant le plus souvent et malheureusement des populations précaires ou des populations défavorisées. Ces gens-là, ils ont souvent une faible littératie en santé, ils méconnaissent le risque d'évolution. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'universalisme proportionné, c'est-à-dire une action préférentielle, incitative en faveur de ces populations. Sinon, de la même façon, on va voir augmenter le nombre de patients qui vont avoir besoin d'une suppléance. Enfin, et pour conclure et être assez bref, je voudrais rappeler qu'il est important de développer une culture commune de la prise en charge de ces patients, une culture commune de la prévention secondaire à travers la prévention des patients à risque cardiovasculaire élevé de la maladie rénale chronique, une culture de travailler ensemble avec les néphrologues et avec les structures spécialisées, les structures de dialyse. Et il me semble vraiment, pour participer, je suis secrétaire général de la CPTS de Caen, on a tout intérêt à faire ce travail sur un échelon populationnel avec une communauté professionnelle territoriale de santé. C'est là où on définit ses parcours de soins, c'est là où on prend connaissance les uns des autres, on organise pour le mieux, on crée des liens aussi, on a la possibilité d'accéder facilement à une expertise en néphrologie en particulier. C'est comme ça qu'on travaille bien. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Je serai à votre disposition pour répondre de façon plus détaillée aux questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, docteur Jacques-Baptiste Ny. On va maintenant, je vais céder la parole à Anne-Valérie Boulet, qui est la vice-présidente de la Fédération Rénomed, et elle va nous parler d'un sujet aussi excessivement important qui a été traité lors de cette année de travail. C'est évidemment de pouvoir garantir le bon usage des ressources qui sont dédiées, à la fois dans le cadre du PLFSS, mais aussi de la réforme du secteur de la maladie rénale chronique et de l'ensemble des besoins financiers.
Oui, merci. Donc, il m'a été demandé de présenter les préconisations en lien avec les financements et à l'appui des commentaires qui ont été faits par les participants à ce groupe. Donc, sur le premier élément, Chabert-Kahn l'a dit, il manque une partie de recueil de fragilité physique ou psychique, vulnérabilité, handicap. En fait, ce qui est aujourd'hui financé, c'est, comme il l'a dit, la technique de soins, notamment en suppléance. Mais par contre, l'accompagnement de cette maladie chronique qui fait nécessairement appel à des professionnels dits chez nous de soins de support pour s'adapter au mieux à leur projet de vie et à leurs besoins spécifiques n'est aujourd'hui pas assez reconnu dans les caractéristiques des patients. Monsieur Battistoni a fait écho à un critère d'universalisme proportionné qui permet quand même une allocation de ressources ciblées. Donc, pourquoi on dit garantir le bon usage des ressources, c'est peut-être sans pour autant augmenter considérablement cette enveloppe, puisqu'on est dans un PLFSS assez contraint, mais plutôt d'ajuster les ressources aux besoins spécifiques, ce qui n'est pas simple, mais qui nécessite de le prendre en compte, que ce soit dans la prévention ou que ce soit dans la suppléance en dialyse. Une bonne allocation de ressources devrait aussi faire appel à des notions de pertinence et de sobriété en soins. C'est une préconisation qu'on formule dans le cadre de ce groupe. Lorsqu'on parle ensuite d'une autre préconisation qui consiste à préserver une offre graduée et coordonnée par territoire, aujourd'hui, le transport compte pour 16 à 19% du coût de prise en charge d'un patient en dialyse. Le fait de proposer cette offre graduée, puisqu'il y a plusieurs modalités, doit d'abord passer par la proposition de modalités les plus autonomes, puisque les patients sont encore en capacité de contribuer à leur traitement, s'ils le souhaitent bien sûr, vers une orientation plus médicalisée, mais toujours en proximité. Donc c'est pour cette raison qu'on prétend aujourd'hui que l'économie de transport générée devrait être au service de l'accompagnement des acteurs qui investissent dans des activités parfois très isolées, avec des petites unités qui peuvent être de 5, 10, 15 patients, mais qui, en termes de qualité de vie, apportent évidemment un confort inestimable. Et enfin, permettre aussi de plutôt que d'utiliser cet argent dans les transports, de les délivrer aux soins. Il faut aussi qu'on intègre aujourd'hui, dans cette évolution des financements, la réforme des financements de la dialyse qui est en cours actuellement, qui a démarré et qui s'accompagne aussi d'une réforme des autorisations. Alors là, sur la préconisation du groupe, c'est une méthodologie d'accompagnement qu'on voudrait soutenir parce qu'aujourd'hui, elle est un peu en accélération, cette réforme, avec un enjeu au 1er janvier 2026 qui ne nous paraît pas adapté à l'enjeu. On se rappelle que nos derniers décrets datent de 2002, ils ont plus de 20 ans, et que la prochaine réforme va nous embarquer certainement pour les 20 ans à venir. Donc pourquoi cette méthode doit être prudente et menée avec réflexion? D'abord, il faut comprendre à quoi correspondent en vie réelle les tarifs ou les forfaits qu'ils servent aujourd'hui de financement. Quelles sont les activités? Nous avons aujourd'hui de l'hémodialyse quotidienne avec les nouveaux dispositifs, nous avons de l'hémodialyse endocrine, de la dialyse périnéale. Il y a un arsenal thérapeutique qui permet de s'adapter à tous les besoins des patients. On a des études de coûts, mais finalement, qu'est-ce que ça finance? Ce travail n'a jamais été fait. Donc nous, on préconise de décrire les parcours de soins des patients et de décrire les plans de soins, c'est-à-dire les ressources. Et on a parlé des ressources en médecins, en infirmiers, mais aussi en soins de support, en enseignants à part, en diététicienne, en psychologue, en assistante sociale. Ce travail ne peut pas être bâclé, sans quoi la réforme risque d'être un échec. Il faut ensuite s'assurer que les tarifs proposés sont compatibles avec ces coûts. Donc, une fois qu'on a calculé ces coûts, il faut discuter les propositions tarifaires. Aujourd'hui, la réforme discute les propositions tarifaires, mais n'a pas fait ce travail préalable. Et enfin, notre préconisation, c'est s'assurer que la réforme n'affaiblira pas les établissements. Affaiblir les établissements, c'est aussi affaiblir l'offre et de fait ne plus répondre aux besoins. Donc ce travail de méthodologie qu'on souhaite proposer à l'issue de cette conférence de presse aux institutionnels va être essentiel, et comme on l'a déjà dit, en proximité pour maintenir la qualité de vie. On ne pourra pas, selon nous, proposer une réforme sans proposer une expérimentation et suivre cette réforme. Voilà, donc très rapidement, essayons de traduire les préconisations que nous avons formulées dans ce groupe et puis on répondra aux questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Anne-Valérie Goudet. Je donne la parole maintenant pour pouvoir aborder un sujet important, c'est qu'au terme de ce travail d'un an, de cette conférence de concertation, de ces ateliers, de ce document de recommandation qui a été produit, il est apparu une forme d'évidence, enfin, professeur Maurice Lavie, vous allez le confirmer, qui était de se dire bah, il était peut-être nécessaire de mettre en place un plan maladie rénale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut attendre?
Merci à nouveau. Donc, effectivement, les réflexions convergent vers une demande forte de la communauté néphrologique et de Rhénomène en particulier, du groupe Terrain, autour de la mise en place d'un plan national sur la maladie rénale chronique. Donc, pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, on peut dire que ce plan, bon, c'est évidemment les trois ou les quatre P, si on veut, c'est-à-dire la prévention, la proximité, le parcours, Et voilà, et tout ça peut déboucher sur un plan. Qu'est-ce qui est important finalement dans le cadre d'un plan? Ça a été dit. D'abord, la complémentarité entre les différentes compétences des professionnels de santé, la continuité des soins, mais ça veut dire aussi la continuité de l'information patient, c'est-à-dire pas essayer d'éviter tout ce qu'on appelle les ruptures de parcours qui sont extrêmement dommageables pour les patients, réduire les inégalités qui sont des inégalités territoriales, qui sont évidemment des inégalités d'accès aux soins. En fonction de la littératie de santé, en fonction du territoire, en fonction de la proximité des ressources de soins spécialisées. Et ces difficultés d'accès aux soins sont aussi des difficultés d'accès au dépistage, à la prise en charge et d'accès au traitement. Parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'alors que il y a une trentaine d'années, on considérait que la maladie rénale chronique avait une évolution inéluctable vers la dégradation de la fonction rénale et les traitements de suppléance. On sait aujourd'hui qu'avec différentes catégories de traitements, dont certains relativement récents, on a la possibilité de ralentir de façon tout à fait considérable la progression de la maladie rénale et d'éviter à certains patients d'arriver même en dialyse et pour beaucoup de patients de retarder considérablement le moment du traitement de suppléance. Donc, si vous voulez, quand on a des traitements efficaces, tout ce qu'on souhaite, c'est que tous les patients puissent y accéder dans le temps utile, c'est-à-dire finalement à des stades relativement précoces de la maladie rénale chronique, parce que plus la maladie évolue, plus elle avance, plus sa fonction rénale est dégradée, moins l'effet des traitements va être important. Alors, le plan, bah, ça passe par l'information de la population sur la maladie rénale et sur les facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque alimentaires, il y a les facteurs de risque toxiques, médicamenteux. Il y a des médicaments qu'on connaît bien, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont en vente libre et qui représentent, sur des traitements prolongés, un facteur de risque de maladie rénale chronique. La sensibilisation des professionnels, la formation des professionnels, ça a été évoqué par Jacques Battistoni, mettre, je dirais, homogénéiser le niveau de connaissance sur la maladie rénale chronique, ses moyens de dépistage et ses moyens de traitement. L'harmonisation des pratiques de dépistage, ça a été dit dans les travaux du groupe Terrain, les prescriptions de dépistage de la maladie rénale doivent être harmonisées et simplifiées, et en fait, si on dispose d'un dosage de créatinine, d'un calcul du débit de filtration glomérulaire et d'un rapport albumine sur créatinine, on a tous les éléments pour évaluer le risque futur d'aggravation de la maladie rénale. Le parcours de soins avant le stade 4, eh ben, c'est évidemment l'outil nécessaire pour mettre en place ces pratiques. Penser à la fragilité, ça a été dit, à l'inclusion sociale. Les services supports, beaucoup de ces services supports, notamment, je pense à l'activité physique adaptée, etc. Alors qu'on sait que le maintien d'une activité physique est non seulement bénéfique sur le plan de la santé, mais également bénéfique sur le plan de l'autonomie et permet aux patients d'arriver à des stades avancés en traitement de suppléance, en ayant conservé une autonomie, donc une meilleure possibilité d'accès à la greffe, une meilleure possibilité d'accès à des méthodes de dialyse autonome ou à domicile. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes et c'est des choses qui, je dirais, il y a une accumulation de bénéfices à condition de commencer suffisamment tôt et les effets ne sont pas à court terme. Souvent, les décideurs de santé demandent aux professionnels d'avoir des résultats à court terme. Non, c'est des résultats qu'il faut attendre à 5 ans, à 10 ans. Mais sur le plan individuel, ça peut changer considérablement les choses. Et ça a été dit également, la facilitation de toutes les méthodes de traitement de proximité. Donc, dialyse de proximité, autodialyse, dialyse à domicile, et ça passe bien sûr par le maintien des structures qui animent ces activités. Donc, il y a des outils pour ça. Ben, les outils, c'est les outils qu'on connaît, c'est l'information, les campagnes d'information grand public, c'est la formation des professionnnels. Je sais pas, je crois pas que la maladie rénale chronique fasse partie des objectifs prioritaires des plans de formation du DPC, par exemple. Me tourne vers Luc Frima, qui est le président du Collège national de néphrologie et qui s'occupe de la formation continue. Donc, est-ce que ça en fait partie? C'est un sujet qu'il faudra sur lequel il faudra revenir, il y a aussi une grande hétérogénéité des systèmes d'information. C'est-à-dire que quand on passe d'un hôpital à l'autre, quand on passe d'un cabinet médical à un hôpital, il n'est pas toujours facile d'assurer la continuité de l'information médicale. Le financement, bien sûr, financement adéquat des structures, notamment celles qui impliquent des implantations de proximité, qui sont dont l'équilibre économique est fragile, financement adéquat des services supports, consultations diététiques, par exemple, qui ne sont actuellement pas financées par l'assurance maladie en libéral. Beaucoup de services supports qui améliorent la qualité de vie des patients, qui améliorent aussi leur pronostic et qui ne sont pas vraiment financés. Donc, le plan, voilà, il y a des objectifs, il y a des outils, et c'est la cohérence de la mise en place de ces outils avec le financement qui va avec, qui peut permettre de faire des progrès considérables dans la prise en charge de la maladie rénale chronique dans ce pays. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Maurice Laville. Alors, à moins que dans les intervenants, il y en a qui veuillent apporter quelques compléments sur ce qui a été dit. Alors, à ce moment-là, je vous demande de vous faire un petit signe ou d'appuyer sur la petite main qui permet d'avoir la vision. Aziz Aberkan.
Oui, je voulais parler aussi, là, on a parlé juste tous les acteurs. Il faut ne pas hésiter à associer les patients, les associations de patients qui peuvent, grâce à leur expérience, à leur vécu, contribuer à faire connaître, du moins à accompagner les patients. Donc, moi, c'est ce que je fais dans le cadre de la pérédance, mais je ne suis pas le seul. Je vois Jean-Marc, je vois différentes personnes qui, on est sollicités, nous, les patients, pour essayer notamment d'expliquer aux patients qui découvrent la maladie comment on fait pour vivre avec ça, excusez-moi de dire avec ça, mais avec cette maladie, avec cette contrainte. Et ça leur permet de se mettre en mouvement et de ne pas être dans la sidération, la peur. Et donc, je tenais aussi à associer, notamment France 1, on est là, on est disponible pour accompagner le monde médical pour justement ces patients. Ça va.
Merci. Est-ce que est-ce que Dr. Basistoni, professeur Frima, vous voulez apporter un dernier petit élément avant que nous passions aux questions que vous pouvez poser, soit dans le chat, soit en levant simplement la main, en cliquant sur le bouton.
Et dans l'ensemble.
Évidemment, ça.
Oui, je crois que je redirais volontiers en guise de conclusion qu'il faut vraiment développer une culture commune. On l'a dit tout à l'heure, on a des choses partagées ensemble. Je crois que le bon niveau, c'est le niveau territorial, populationnel, comment on prend en charge les patients sur notre territoire, quelles sont les ressources disponibles, comment on prend connaissance les uns des autres, comment on utilise les mêmes outils. Dans mon territoire, on a commencé à rencontrer aussi les biologistes afin d'harmoniser les prescriptions, les rendus des prescriptions. Voilà, on a du travail devant nous, mais c'est vraiment un travail intéressant au service de la population et dont l'objectif est vraiment d'éviter au maximum de gens d'arriver au stade de la suppléance et des traitements de suppléance.
Merci beaucoup. On arrive au moment où, en fait, vous allez pouvoir poser des questions à l'ensemble des intervenants. J'en ai, moi, reçu quelques-unes d'ores et déjà. Et vous n'hésitez pas, soit dans le chat, vous les posez directement, soit, en effet, si ici, dans la salle, vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Il y a une question qui est comment donner plus de place aux patients pour répondre à vos recommandations? Bon, peut-être les deux visions, celle d'Aziz d'un côté, mais aussi celle de Maurice, Laville.
L'idée, c'est de s'appuyer sur l'expérience du patient. Ce que nous, on demande souvent, et c'est très court, hein, c'est de faire avec le patient et pas pour le patient. Souvent, on voit des affiches, on dit « centré sur le patient ». Ben oui, mais on n'est pas dedans. Alors que nous, on veut faire partie de la boucle. Donc, et là, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je fais partie de ce groupe de travail parce qu'il y a eu une volonté d'identifier les besoins du patient et d'en tenir compte, et c'est ce qu'on fait dans ces recommandations. Donc, la démarche, elle est là.
Oui, non, je pense que dans beaucoup de nos structures, nous avons des représentants des usagers, donc des patients qui travaillent avec nous, qui nous signalent les améliorations possibles, et on s'efforce de les mettre en œuvre. Et bien sûr que ça paraît même c'est tellement évident que on devrait même pas avoir besoin de le dire, quoi. C'est-à-dire, bon, je veux dire, Les personnes à qui on essaie d'apporter le bénéfice de notre compétence sont les patients. Donc les patients, bah, ils vivent des choses et si ils pensent qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, bah, évidemment, doit être à leur écoute et s'efforcer de les réaliser. Je prends un exemple, le problème de la douleur dans la maladie rénale chronique, c'est un problème qui a été complètement occulté pendant des années. La maladie rénale chronique, c'était une biologie, c'était des problèmes digestifs, c'était plein de choses, une hypertension, etc. Et les enquêtes ont montré donc d'abord que la qualité de vie des patients était très altérée, premièrement, pour les raisons que Aziz a évoquées, et deuxièmement, que la douleur chronique faisait partie du vécu des patients qui avaient une maladie rénale chronique. Et que c'était finalement occulté et pas suffisamment pris en charge. Et donc voilà, bah, quand on écoute les patients, on améliore la qualité des soins. Ça paraît tout à fait évident.
Merci beaucoup. Alors, j'ai une question d'Agathe Delpeau, du quotidien du médecin. Vous espérez une réduction de combien de pourcentage du besoin d'une suppléance, si cela a été quantifié?
Alors, on sait en il y a 2 ans, pardon, on a évalué en additionnant un petit peu toutes les actions et tous les leviers potentiels, on a évalué à une diminution de 20%. Ça a fait l'objet d'une publication d'ailleurs d'un éditorial dans le quotidien du médecin, en associant toutes les mesures de prévention, en associant le recours à la greffe, en associant le traitement conservateur. On peut vraiment faire diminuer significativement, très significativement, le nombre de patients qui vont en dialyse.
Non, merci beaucoup. Alors, je sais, il y a une autre question aussi d'Agathe Delpeau que je poserai après. Et je vois qu'il y a une main levée. Alors, ce qui apparaît comme nom,
Bernadette
c'est
Fallère.
Bernadette Falerpe. Bonjour.
Oui, bonjour. Je prends la parole parce que j'ai maintenant 3 ans d'expérience avec les 6 CPTS d'Alsace, qui couvrent une population de 600 000 habitants. Et mon propos et ma mon je suis concernée par le fait d'amener l'information aux soignants de ville, notamment aux médecins généralistes, parce que il me semble, et c'est pas du tout un jugement, mais parce que le médecin généraliste a tellement de choses à suivre, qu'il me semble que la maladie rénale n'est pas forcément prioritaire. Et je constate que lorsque nous faisons des réunions, 95% de l'assistance est représentée par les infirmières libérales et il y a très peu de médecins généralistes. Je comprends bien qu'avec des journées extrêmes, venir encore en formation à 20 h, c'est difficile. Donc, mon point, c'est comment amener la communication vers les médecins généralistes. Et on a créé des outils, mais si les médecins ne viennent pas aux formations, c'est difficile de transmettre. Par ailleurs, je suis bien entendu tout à fait en phase avec tout ce qui a été dit. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Bernadette Faller.
On peut juste savoir qui est cette dame, ce qu'elle fait comme métier.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter,
Oui.
Bernadette, en tout cas, qu'est-ce que
Eh
vous faites?
bien, en effet, j'étais néphrologue, chef du service de l'hôpital Pasteur de Colmar pendant presque 30 ans. Et à ma retraite, j'ai travaillé sur l'expérimentation du parcours de soins des maladies rénales qui s'est terminé en 2021. Et du coup, avec les outils que nous avions créés, j'ai bifurqué et j'ai essayé de faire rentrer la maladie rénale dans les parcours de soins des CPTS de ma région.
Merci.
Non, mais ma question, c'est est-ce que c'est de la formation professionnelle obligatoire? Est-ce que ce sont des CPTS avec une possibilité juste offerte aux généralistes de venir, enfin aux généralistes, aux infirmières libérales, etc.?
Oui, ce sont des réunions organisées dans le cadre du parcours de soins, enfin dans le cadre du plan de santé, et c'est une option qui est offerte aux soignants libéraux. Il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr.
Bon. Alors, on va essayer de répondre à la question de Bernadette, rapidement après passer à la question du quotidien du médecin.
Je peux essayer de répondre rapidement, si vous
Oui,
voulez.
merci.
Les CPTS, elles ont des outils à leur disposition. D'abord, le parcours maladie rénale chronique, c'est un des parcours, vous savez que les CPTS ont différentes missions d'organiser les parcours, notamment, dont celui de la maladie rénale chronique. Elle, c'est pas une obligation, mais c'est très souvent quand même retenu par les CPTS dans leur projet de santé. Et après, elles utilisent les outils de communication qui sont les leurs. Ça passe par des formations, mais ça passe aussi par de l'information. Dans ma CPTS, on a des newsletters, on a un site internet, on a la possibilité d'inviter, de passer aussi par, on a des référents de territoire parce pour se rapprocher du terrain et s'appuyer notamment sur les maisons de santé, les centres de santé quand il y en a, les équipes de soins primaires pour leur exprimer les choses en proximité. Et on organise, par exemple, au mois d'avril prochain, un colloque dont un des thèmes sera les parcours de, dont le thème sera les parcours de soins et dont la maladie rénale chronique sera traitée en tant que telle. Voilà. C'est en même temps un vrai sujet de comment on fait passer de l'information, mais pour les médecins généralistes, c'est le suivi allez, les 30% de malades chroniques qu'ils ont dans leur patientèle sont concernés par, je dirais, la prévention secondaire de la maladie rénale chronique. Quand je dis prévention secondaire, ils ont déjà une maladie et le but, c'est de leur éviter d'en avoir une nouvelle avec une insuffisance rénale chronique terminale.
Merci beaucoup, docteur Battistoni. Une autre question qui se rapporte au territoire. Est-ce que les territoires avec beaucoup de patients défavorisés sur lesquels les efforts doivent être dirigés sont les mêmes que ceux avec peu de centres de dialyse, d'activités de transplantation? Alors là, qui veut répondre? Maurice. Oui.
Moi, je pense que effectivement, il y a eu que. Bon, d'abord, on a les données du registre Rhin qui pointent bien les inégalités territoriales, notamment au niveau des régions. Après, il faut descendre à un niveau beaucoup plus fin, pratiquement les communes, voire ce qu'on appelle les QPV, hein, les quartiers prioritaires de la ville, où sont concentrées des populations, je dirais, qui est défavorisée, avec une faible littératie où l'accès aux soins est limité. Pardon, excusez-moi. Il y a un travail qui a été fait, qui est extrêmement important, qui a été, à partir des données. Excusez-moi. À partir des données de la cohorte. CKD Rhin et aussi du registre Rhin, sur les relations entre déprivation sociale et incidence de la maladie rénale chronique. Il y a clairement une corrélation entre les deux. Ça veut dire qu'il faut descendre à une échelle assez petite, celle de la commune, parce que d'une commune à l'autre, il peut y avoir des différences considérables en termes de niveau de vie, en termes de conditions de logement, en termes de densité médicale ou professionnelle de santé. Et effectivement, c'est ce qu'on essaie de, on essaie de répondre à ça avec les implantations de proximité. Bon, par exemple, dans l'Est lyonnais qu'on connaît bien. Nous avons implanté avec l'ORAL, qui est représenté ici par son directeur général, M. Cotelat, une unité de proximité dans un secteur où il n'y avait aucune structure néphrologique, les structures néphrologiques étant concentrées sur l'agglomération lyonnaise. Et là, on était dans un secteur avec forte population, avec relativement peu de littératie en santé. À un niveau socio-économique plus bas que la moyenne, indiscutablement, et on implante des structures. Donc ça, je dirais que pour nos associations à but non lucratif, c'est une souplesse de fonctionnement qui permet de s'adapter de façon beaucoup plus fine à des besoins de population qui ne sont pas couverts par les gros établissements hospitaliers publics ou les grosses cliniques privées.
Oui,
Oui.
peut-être ajouter que dans l'ensemble des préconisations formulées, et certainement le dire mieux dans le dossier presse, il y avait deux outils qui sont à proposer, à développer. D'abord, rebondir sur la question de la territorialisation, hein, de cette coordination. Il y avait les unités médicales de proximité, hein, M. Battistoni l'a évoqué sous un autre terme, mais c'est vraiment ça qu'on vise. Et puis les équipes de soins spécialisés en néphrologie qui, à ce jour, ont été introduites dans la convention médicale, malheureusement au service uniquement de l'exercice libéral. Et on est porteur, on souhaiterait être porteur d'un amendement, mais le PLFSS 2025 ne nous laisse pas beaucoup de place pour porter des amendements pour que ces équipes de soins spécialisés puissent être ouvertes à tous les professionnels, qu'ils soient salariés ou libéraux, parce que sur les territoires ruraux, on n'a pas le luxe de pouvoir trouver une équipe de 10 médecins par spécialité pour répondre à ce besoin. Autre élément, quand on est sur des territoires ruraux avec une grande précarité, mais plus que la précarité, c'est l'accès aux ressources de soignants, hein, qui est un sujet, et plutôt les déserts médicaux et soignants, il faut qu'on obtienne des recours à des outils qui existent dans d'autres disciplines, je pense aux équipes mobiles. Et malheureusement, aujourd'hui, l'article 51 est un peu limitant pour l'accès aux équipes mobiles. On s'est vu essuyer un refus récemment, on y retournera. Mais voilà, c'est ces outils-là que le groupe Terrain a identifié vraiment dans la logique de l'année verte pour développer cette offre de prévention et de soins en proximité.
Merci Anne-Valérie Boulet. Agathe, vous me confirmerez que vous avez bien obtenu la réponse à votre question et avec tous les éléments. Pierre Lalanne, oui, de l'APM.
Vous n'êtes pas les premiers à faire des recommandations. Je me souviens que la CNAM s'était dans son propre, dans son rapport sur les produits, a fait ses propres recommandations. Je n'ai pas l'impression que c'est autre chose dans le BFSS. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, pour faire en sorte que ces recommandations soient portées et se transforment en action?
Ben, je pense que les groupes néphrologiques, comme Terrain, travaillent actuellement pour élaborer un plan d'action commun et animer des leviers représentés ben, essentiellement par, bien sûr, les décideurs publics et les parlementaires. Donc, nous avons déjà un certain nombre de contacts avec les parlementaires. Des contacts sont prévus avec les membres de la Commission des affaires sociales. Il y a des messages qui leur a été envoyé. L'idée est d'organiser, je pense que j'anticipe pas sur les événements, mais je parle sous le contrôle de Luc Frima, l'idée est d'organiser, je dirais, assez rapidement, dans les semaines qui viennent, début 2025, une réunion, un colloque important rassemblant des décideurs, des parlementaires autour justement de la mise en place d'un plan maladie rénale pour bien les convaincre, bon, on va faire beaucoup de travaux et d'entretiens préalables pour bien les convaincre de la nécessité de la mise en place de ce plan qui, je dirais, aujourd'hui représente un impératif. Hein. Les derniers textes réglementaires importants sur la maladie rénale chronique, ils ont été publiés en 2003. En 2003. Ça fait plus de 20 ans, donc il est temps maintenant, je dirais, avec l'évolution de l'épidémiologie, l'évolution des traitements, la notion de parcours qui s'est imposée, l'amélioration de la connaissance qu'on a pu acquérir à travers, bon, bien sûr, les données du registre Rhin, mais aussi, et là je parle sous le contrôle de Bénédicte Stingel, l'épidémiologiste, la grande cohorte CK des Rhin, qui a été quelque chose de tout à fait essentiel pour mieux connaître la maladie rénale en population. Je rappelle, 3000 patients suivis 5 ans avec le recueil de paramètres biologiques, de paramètres cliniques, de paramètres de qualité de vie, d'insertion sociale, donc un énorme travail. Eh bien, ça nous a permis de beaucoup mieux connaître la maladie rénale. Donc aujourd'hui, sur toutes ces connaissances, on sait quelles sont les orientations qui doivent être prises pour améliorer la prise en charge globale de la maladie rénale est arrivée au pourcentage qui était cité par Luc Frima, c'est-à-dire une réduction de 20% du nombre de patients traités par des méthodes de suppléance. Voilà.
Je peux compléter juste un point par rapport à ça. Oui. C'est que, rapide, c'est très court. En termes, nous, les associations de patients, on essaye de participer, c'est pas qu'on essaye, on participe même à des réunions avec les pouvoirs publics, avec les institutions, pour faire connaître nos besoins, entre guillemets, et à ce titre-là, alors malheureusement, on ne peut pas faire grève de la dialyse, hein, c'est aussi une question, mais quelque part, on participe aussi pour faire connaître justement nos besoins et essayer de les intégrer dans le futur financement, entre autres, ou
les autorisations d'ouverture de nouveaux centres.
Moi, j'avais une question, parce qu'en fait, moi, il me manque quand même le panorama global de la maladie rénale chronique, parce que j'ai cru comprendre que vous représentiez les établissements à but non lucratif, mais privés quand même. La dialyse est prise en charge par qui aujourd'hui? Et est-ce que vous pourriez nous dire, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes, voilà, comment vous vous situez? Parce que je pense que vous n'êtes certainement pas, vous avez dit que vous représentez à peu près 45%, vous n'êtes pas sans doute les seuls acteurs. Donc voilà, par rapport aux hôpitaux, par rapport aux néphrologues qui sont à l'hôpital, quels sont un peu vos liens?
Peut-être rappeler que le groupe Terrain, c'est par les Nomades. Hein. Le groupe Terrain a associé l'ensemble des acteurs de la maladie rénale, public, privé lucratif et privé non lucratif. Il a été cité, M. Frima, M. François Wortowsnik, c'est la société savante. On a aussi intégré, je n'en cite que quelques-uns, mais Vincent Lacombe, qui est la Fédération d'hospitalisation privée. L'objectif, et vous l'avez un peu évoqué au travers de votre question sur le rapport chargé-produit de la CNAM, l'objectif de la conférence de concertation, il y a plus d'un an maintenant, bientôt deux, et de ce groupe, et demain, de l'unité des différents groupes de travail sur ce sujet, c'est vraiment d'associer l'ensemble de la profession pour être porteur d'un projet concerté. Parce que, effectivement, les entretiens bilatéraux, enfin, bilatéral, où chacun porte des sujets, là, on a vraiment fait un travail de collaboration, concertation, au service des patients, sur un parcours global, que ce soit la prévention, l'insuffisance rénale, plus ou moins avancée, la greffe ou la dialyse, et les traitements conservateurs, comme le milieu du climat, qui viennent de démontrer leur intérêt. Voilà, donc c'est vraiment l'enjeu hein, et la raison de ce plan maladie rénale. PAJCAM avait écrit qu'il fallait une instance nationale de la maladie rénale, et nous, on souhaiterait qu'il y ait et une instance nationale et un plan maladie rénale.
Alors, le professeur Luc Frima, oui, vous voulez intervenir.
Oui, je souligne que je suis président du Collège national professionnel de néphrologie et qu'il regroupe toutes les différentes entités publiques, privées non lucratives, privées lucratives, et que c'est toute la profession est vraiment en ordre de marche pour comment dire, atteindre les objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Le moins 20%, c'est un éditorial du quotidien du médecin au printemps 2023 qui a été signé par toutes les composantes de la profession. Et c'est un message fort que nous portons aujourd'hui, c'est que nous sommes unis pour atteindre cet objectif. Toute la représentation est vraiment mobilisée. Donc aujourd'hui, c'est pas une réunion Rénomède ou privée non lucratif, c'est une réunion vers un plan d'action vraiment global et un plan maladie rénale chronique est vraiment attendu au niveau national pour qu'on franchisse le pas d'une action vraiment qui va jusqu'au bout. On a fait énormément de choses, on a prouvé énormément de choses, mais maintenant on veut aller jusqu'au bout pour les patients.
Avec les patients.
Avec les patients,
oui.
J'ai dit ça, avec les patients.
On arrive au terme de cette conférence de presse. Alors, il y avait une petite question, si on peut y répondre rapidement. Je ne sais plus si c'est Jacques-Baptiste Denis ou si c'est le professeur Luc Frima qui a parlé de l'universalisme proportionné. On demande une explication de ce qu'est cet universalisme proportionné.
C'est Jacques-Baptiste Denis qui en a parlé, mais il vient de quitter la réunion, je pense. Mais peut-être que Anne-Valérie Boulet peut ajouter quelque chose, qu'elle en a reparlé après.
C'est un terme un peu élitiste, mais il nous a été soufflé par notre ami, le professeur Jacques Bringer, qui s'occupe de la Commission nationale d'éthique de l'Académie de médecine. En fait, c'est vraiment l'idée d'adapter et d'ajuster les ressources allouées aux besoins du patient. Aujourd'hui, on a à cœur d'apporter la même offre, de façon assez homogène. L'idée, là, c'est de recueillir des critères de fragilité, de précarité, de vulnérabilité et d'ajuster le recours à l'assistante sociale, à la psychologue, à l'activité physique, au gériatre. Voilà, on a pas mal de travaux encore possibles à faire pour ne pas surconsommer les ressources, mais vraiment dans une logique de sobriété. C'est vraiment, on pense que la sobriété est peut-être le moyen aujourd'hui maîtriser les ressources et on sait qu'elles sont assez précieuses.
Ouais. Et alors, je crois qu'il y a une intervention, ça sera hélas la dernière que je vais pouvoir prendre du professeur François Vostosnik, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le président de la Société francophone de néphrologie.
Oui, bonjour. Donc, je souscris bien sûr à toutes les remarques qui ont été faites, hein, les propositions qui ont été faites. Je pense que beaucoup de ces propositions, elles soulignent l'importance d'un travail en équipe et l'importance clé de la densification des soins. Ce qui est fait à la fois par les néphrologues, mais aussi par les équipes. On a parlé des soins de support, on a parlé des infirmières, on n'a pas beaucoup parlé des IPA aussi, mais ce qui est clair, c'est que ces soins nécessaires à la prise en charge des corps dont on a parlé, MRC, dialyse, greffe, eh bien, il faut du monde, il faut des soignants pour s'en occuper, il faut donc des financements pour ces soignants, et il faut pas oublier qu'on est dans un contexte de démographie très tendu dans le domaine de la santé, et qu'on a probablement besoin d'un plan santé pour que ces moyens humains soient ouverts vers la prise en charge de la maladie rénale dans son ensemble. C'est un domaine qui est compétitif aussi, la santé. La maladie rénale, c'est pour nous évidemment quelque chose qui est prioritaire. Il faut donc qu'on ait à la fois les financements, mais aussi la possibilité de recruter ces personnes. Je pense que c'est une question qui est aussi importante.
Merci pour cette intervention qui conclura. Alors, Victor...
Oui, c'est de vous conclure, de dire un mot après.
D'accord. Donc, juste de vous rappeler à tous que la conférence a été enregistrée, donc on la tient à votre disposition sous forme audio, et que, bien évidemment, l'ensemble des intervenants que vous avez pu entendre sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous remercie donc de votre attention. Et Victoire va conclure cette conférence.
Oui, rapidement, en deux mots, on remercie à nouveau vraiment tous les experts, tous les professionnels dans leur diversité, voilà, qui participent, qui font partie du groupe Terrain. Un remerciement aussi en particulier à Bénédicte Stingel qui s'est beaucoup, beaucoup impliquée, et à Roland Cache et Alain Sommer, nos économistes qui ont vraiment aussi œuvré et travaillé avec nous et qui vraiment nous ont aidés sur tous ces travaux. Donc vraiment un grand merci à vous tous. On le rappelle, Terrain réunit vraiment l'ensemble des professionnels du secteur. Voilà, c'était sur Terrain, et juste pour vous rappeler que l'UC2M travaille, l'Université du changement de médecine, aussi sur d'autres problématiques, sur d'autres secteurs, d'autres pathologies. On a notamment un groupe de travail onco qui travaille sur l'organisation, enfin, la prise en charge et surtout la prévention du cancer en France. On a également d'autres recommandations à venir, et donc on vous tiendra également informés, voilà, de nos actualités en 2025. Voilà, c'était juste.
Pierre, à votre disposition.
Oui, justement pour remercier tous les intervenants, toutes les personnalités, les experts qui ont participé aux travaux du groupe Terrain, et remercier toute l'équipe Ortus qui a mis finalement à disposition de ce projet la méthodologie de l'UC2M et qui s'est impliqué très fortement pour faire avancer la réflexion et arriver à la rédaction d'un texte qui marquera, je pense, une étape importante dans la progression des idées et dans les actions qui nous servira de support aux actions destinées à améliorer la prise en charge de la maladie rénale chronique.
Boris.
Et d'ailleurs, oui, j'oubliais, dans la note, au-delà des recommandations plus générales, nous avons deux focus qu'on a pu faire, notamment avec les auditions, je l'avais cité en introduction, avec le professeur Baqueta, et puis également un focus sur la pédiatrie, sur l'importance aussi, voilà, de ce sujet. Donc vous avez aussi tout un encadré sur ce sujet, et aussi sur l'IA, l'intelligence artificielle, comment l'IA peut aussi peut-être apporter des solutions nouvelles, que vous avez dit. Donc je vous encourage à lire avec attention cette note. Voilà.
Je dois mettre un point final à cette conférence de presse qui s'étend mais qui est passionnante. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt. On tient tous les documents que vous souhaitez à votre disposition. Passez une très bonne journée. À très, très vite. Et peut-être pour parler de ce plan national sur les maladies rénales chroniques. Merci.
Merci.